21 sur France Culture et vous écoutez Les Matins. Retour à notre invitée Julia Kristeva, linguiste, sémiologue, psychanalyste, enseignante et membre du Conseil économique et social où elle a piloté un rapport sur le message culturel de la France et la vocation interculturelle de la francophonie. Texte qui doit être voté cet après-midi au Conseil économique et social et qui a été discuté hier après-midi dans ce même Conseil. Et justement, on parlait tout à l'heure d'un des outils de cette politique extérieure, culturelle extérieure de la France, Julia Kristeva, qui est l'audiovisuel extérieur, ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant l'audiovisuel extérieur, qui rassemble TV5, France 24, RFI. Et d'ailleurs, depuis le 12 mai, Radio France Internationale, RFI, dans le cadre de ce rapprochement de ces différents éléments de l'audiovisuel extérieur, et dans une grève illimitée depuis le 12 mai, c'est la 7e semaine, là, en ce moment, de cette grève. Est-ce que c'est la preuve? Vous parliez tout à l'heure d'une rationalisation du message extérieur. Est-ce qu'on est dans ce cadre-là? Est-ce que cette grève, c'est la marque d'une rationalisation et peut-être d'une rationalisation maladroite, Julia Kristeva?
Oui, d'abord, c'est très important que vous souleviez ce problème parce que l'audiovisuel extérieur est vraiment un fleuron de la politique extérieure et finalement pas si bien articulé, pas si bien piloté, même s'il y a des efforts dernièrement pour le consolider, notamment par la création de France 24. Mais ça se compose de plusieurs composantes. France 24, il y a TV5 et RFI, évidemment aussi Arte, France O, etc. Mais ce qui joue dans ce domaine. Mais pour ce qui est de RFI, c'est en effet, je pense, une restructuration très maladroite. Et le rapport insiste beaucoup sur le fait qu'il s'agit d'un pivot essentiel du message culturel extérieur, d'un réseau de compétences extrêmement important avec des journalistes très expérimentés et dont le message est bien entendu à l'extérieur, même s'il y a des ajustements et des adaptations à faire. Parfois, BBC nous paraît plus performante, parfois France RFI se débrouille mieux, donc il y a des aménagements à faire. Mais
vous dites que cette restructuration qui est en cours, vous craignez qu'elle entraîne une baisse de l'écoute, tout simplement?
Ça entraîne une baisse de l'écoute, d'abord parce qu'il y a beaucoup de chaînes, beaucoup de langues qui sont supprimées, il y a des tranches horaires qui sont réduites, nous les écoutons quand on voyage à l'étranger, vous le savez. Moi, je me suis rendu compte, aux États-Unis, on l'avait il y a quelques années, toutes les nuits. Maintenant, on écoute RFI dans des tranches matinales de 5h à 9h et seulement le week-end.
Et vous regrettez aussi qu'on entende RFI en France qu'à Paris. Et c'est vrai que c'est logique par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la francophonie qui doit être aussi vécue dans sa diversité, dans l'Hexagone.
Il y a une francophonie intérieure qui consiste en effet à s'adresser aux populations migrantes, à leur pays, à parler de la politique extérieure de la France et à partir de là d'associer nos compatriotes d'origine étrangère à notre cohésion nationale. Et RFI, bizarrement, n'est pas diffusé, sauf sur des petites ondes, je crois, dans le pays. Donc c'est très difficile d'accès. Mais la suppression de langues et la suppression de postes est très préjudiciable. Alors si on le fait, il faut trouver des canaux de récupération, notamment travailler mieux internet, valoriser les carrières, faire un recyclage et une formation continue des personnels, et ce grand malaise est pour l'instant pas traité de manière suffisante.
Vous comprenez ce mouvement de grève qui a lieu en ce moment ?
Absolument. Et nous avons, j'ai rencontré même des personnes qui sont venues au moment de la présentation du rapport et je les ai interviewées auparavant. Et nous avons des mots assez fermes, je crois, dans l'avis pour soutenir ce mouvement et demander que ça soit traité de manière plus harmonieuse.
Julia Kristeva, à côté de cette réflexion sur cet audiovisuel extérieur, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question suivante? Est-ce que ce n'est pas un peu, j'allais dire, old school, pour prendre un mot, des mots anglais pour parler de francophonie, une réflexion un peu ancienne de saisir l'audiovisuel comme vecteur d'une mission politique d'influence? Là, je cite une expression de votre rapport. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres réseaux, tout simplement, aujourd'hui, pour est-ce que, pour ce rayonnement dont on parle ce matin et oublier un petit peu le côté voix de la France qui passe par la télé et par la radio.
Écoutez, si le rapport s'occupait uniquement de l'audiovisuel, ça aurait été en effet plus que old, ringard ou paillette. Mais ce n'est pas du tout cela. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un rapport qui se veut sinon exhaustif, ça a été dit également, quand même assez complexe, qui tient compte de différents aspects de la politique culturelle. Et l'audiovisuel est une composante. Mais je ne pense pas que dans le monde actuel, on puisse réduire cette influence à quelque chose d'ancien ou de décoratif. C'est très important que les images, les messages audio soient intensément nourris de la vision que nous avons de cette mission culturelle qui n'est pas que linguistique, qui concerne la compréhension de l'identité nationale, de l'identité, je dirais, polyphonique qui se crée dans le monde grâce au multiculturalisme et aussi qui œuvre, qui fait la base pour une future gouvernance multipolaire. Parce que s'il n'y a pas cette conception de la pluralité qui nous entoure au plan culturel, comment pourrait-on soutenir sur le plan politique une nouvelle démocratie ?
C'est cet aspect multipolaire qui est effectivement présent dans votre rapport. Il apparaît à travers un axe qui est peut-être un des plus séduisants du rapport, c'est justement vous intégrer la place de l'Europe, une réflexion. On est là dans la question de la politique extérieure culturelle de la France et vous dites qu'il faut absolument jouer avec l'Europe, il faut jouer dans l'Europe.
Je crois que la place de la France, de France en Europe est quelque chose qui est en effet difficile à harmoniser là aussi parce que nous hésitons entre un message national et une prise en compte de l'intérêt européen. C'est un équilibre à structuré à chaque fois et dans chaque action. Mais pour ce qui est des centres culturels et puis de la politique culturelle, il y a deux propositions essentielles. La première, c'est que les structurations, les restructurations, les fusions se fassent de manière à ne pas appauvrir l'Europe de la présence française. Quand je vois que des centres culturels, par exemple en Grèce, sont supprimés et que c'est le seul moyen, comme vous dites, non pas par le message audiovisuel ou télévisuel, mais par la présence réelle dans le pays, de tisser des contacts avec la population, c'est tout à fait déplorable et on est désiré, on est demandé dans ces pays-là.
Vous parlez aussi d'une... Enfin, il y a véritablement une vision européenne, c'est-à-dire que vous envisagez un forum européen permanent qui se déroulerait à Paris chaque
absolument.
Année.
Absolument. Et donc l'autre versant, c'est que la France se fasse l'initiateur d'une politique culturelle européenne qui consisterait à se demander est-ce qu'il existe une culture européenne ? Qu'est-ce que la culture européenne ? Et ceci, par exemple, sous la forme d'un forum permanent à Paris, par exemple, auquel participeraient des intellectuels, des artistes et qui viendraient faire un peu le bilan de la mémoire culturelle européenne, de ses impasses, de ses crimes, et se donner aussi l'audace de réévaluer cet héritage pour placer le message culturel européen de manière pertinente dans les grandes crises que nous traversons aujourd'hui sur le plan international, la fragilité de l'Afrique, le Moyen-Orient et les puissances émergentes. Est-ce que l'Europe a quelque chose à dire ? Pas seulement en tant que marché, mais en tant que message culturel, vision pour l'individu. Et notre expérience, pour le meilleur et pour le pire, peut nous permettre, si elle est évoluée, d'avoir un discours qui n'est pas culpabilisé.
Julia Kristeva, vous êtes notre invitée ce matin dans Les Matins pour parler du rapport qui soumis au vote du Conseil économique et social cet après-midi, rapport sur le message culturel de la France et la vocation interculturelle de la francophonie. Francophonie est un peu plus large, on vient de l'entendre, on continue cette conversation dans un instant. Il est 8h30 sur France Culture et on retrouve la chronique d'Olivier Duhamel. Bonjour Olivier.
Bonjour Thomas.
Ce matin, le gouvernement Sarkozy 2.
Bonjour à tous. Lundi, devant le Congrès, nous avons vu et entendu un président modeste, parlant d'humilité, multipliant les « nous », raréfiant les « je », ni polémique ni narcissique, empruntant à la droite et à la gauche, ménageant le Parlement, rassembleur au possible et invoquant les grands consensus d'antan. Hier soir, dans les journaux télévisés, nous avons vu que le président restait le chef et le seul chef du gouvernement. Celui qui fait et défait les carrières. François Fillon voulait un remaniement à minima. Des journalistes annonçaient qu'il avait obtenu gain de cause. Quelques heures avant l'annonce du changement de gouvernement, une dépêche de l'AFP disait, je cite, « L'hypothèse qui est privilégiée par la presse et la classe politique est celle d'un remaniement à minima avec peu de changements à la satisfaction du Premier ministre François Fillon. » Et suivi tout le contraire. On disait que Sarkozy n'aime pas punir. Il sanctionne ceux qui ont à ses yeux échoué. Sont ainsi renvoyés Christine Albanel pour manque de charisme et enlisement d'Adopi. Ce dernier point coûte aussi son Marocain à Roger Karoutchi. Yves Jégot paye pour la révolte guadeloupéenne. Christine Boutin pour ses écarts. Et Bernard Laporte pour son inexistence autre que gaffeuse. On savait que Sarkozy aime récompenser. Il ne s'en prive pas. Il récompense ses amis, Brice Hortefeux à l'intérieur, dont il rêvait, Estrosi n'importe où, pourvu qu'il y soit. Il récompense ses proches ayant réussi, Luc Chatel promu à l'éducation nationale. Il récompense les petits jeunes prometteurs, avec le précité, et Benoît apparu au logement. Il récompense l'atlantiste qui attendait depuis 2 ans, Pierre Lelouch prend en charge les affaires européennes. Se confirme que Sarkozy est un animal politique. Michèle Alliot-Marie doit être ménagée, elle ne lâche donc la place Beauvau que pour la place Vendôme, titre creux de ministre d'État en prime. Et ne gêne pas à droite le symbole d'un ministre de la justice, de la police transférée à la justice. Animal politique aussi de récompenser son parti. L'UMP a réussi les élections européennes, l'UMP lui obéit bien, l'UMP est comblé. Tous les entrants sont UMP, à 2 exceptions près. La première est politique ô combien, Michel Mercier, trésorier du Bodem, belle prise chez un Bayrou affaibli. Et last not least, Frédéric Mitterrand, où l'on retrouve la dernière dimension du sarkozysme, sa fascination médiatique. Compte avant tout ce qui se voit. Les vidéocrates continuent de remplacer les énarques. Il fallait compenser le départ de Rachida, ce sera Nora Béra. N'était sa visibilité et sa popularité, Ramayad aurait été remercié. N'était son patronyme et sa télégénie, Frédéric Mitterrand n'aurait pas été appelé. Un gouvernement UMP, un gouvernement sarkozyste, voilà qui finalement arrange tout le monde. Le parti du président, ses militants, ses électeurs, qui redoutaient plus que tout un caprice languien et n'en pouvaient plus que l'ouverture se fasse à son détriment. Les écologistes, qui n'auraient pas pardonné un geste allègre. Et les socialistes, tout soulagés, que la vampirisation s'achève. Contenter les siens sans irriter les autres, cela fait partie de l'art politique. Quant aux Français, pour la plupart, ils n'y attachent guère d'importance, on les comprend.
C'était la chronique d'Olivier Duhamel, il est 8h33, vous écoutez les Matins de France Culture, on continue notre conversation avec Julia Kristeva qui est notre invitée et qui a piloté un rapport au Conseil économique et social sur le message culturel de la France. On parle de francophonie, on parle de rayonnement moderne de la culture française dans le monde avec vous depuis 7h40. Julia Kristeva, Olivier Duhamel, vous restez avec nous, Catherine Clément est toujours là et Marc Kravets vient d'arriver de retour de Kaboul, bonjour.
Oui, bonjour Thomas. Et pour vraiment vient d'arriver, vous pouvez le dire.
Notre avion
est arrivé il y a 2 heures.
Et ben voilà. Et vous êtes avec nous, vous êtes en studio. Justement, on parlait de Nicolas Sarkozy, Olivier Duhamel évoquait le président de la République à l'instant, Julia Kristeva, ce rapport dans lequel il y a des véritables propositions, en particulier vous préconisez la création d'un conseil de l'action extérieure pour le développement et la culture auprès du président de la République, histoire de rationaliser cet éventuel éparpillement que vous déplorez en ce qui concerne ce message culturel extérieur de la France. Est-ce que vous avez l'oreille du président de la République sur ces questions-là? Est-ce que ce rapport, une fois voté cet après-midi, s'il l'est, mais j'imagine qu'il le sera par le Conseil économique et social, sera-t-il sur le bureau du président de la République à l'Élysée?
Écoutez, j'en sais rien, donc je ne suis pas dans les intentions du président, j'espère.
Et les vôtres?
Les miennes, j'aurais voulu, parce que non seulement c'est un omniprésident, et on peut penser tout ce que Olivier Duhamel vient de dire par rapport à cette fonction, mais c'est un président de la République. C'est une fonction qui traverse les personnes, et que quand on s'occupe de la culture, il est important que le président de la République, quel qu'il soit, assume la centralité de la culture dans la vie politique. Donc j'aurais aimé, et je pense que c'est l'avis du Conseil économique et social et environnemental, de faire entendre cela. Hier, on a entendu des voix dans le Conseil disant, organisons un colloque autour de cet avis, de manière à ce que l'opinion s'en saisisse déjà et que les politiques ne rangent pas les propositions dans un tiroir, mais les suivent.
C'est-à-dire que ce rapport serait une première sonde, et puis à la rentrée, un colloque pour ressonner les cloches.
Peut-être. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait un ministre tellement visible prouve que la culture continue à préoccuper.
Ah oui, il pourrait se retrouver sur le bureau de Frédéric Mitterrand désormais.
Mais le problème pour le rapport et pour tout le monde, c'est que la politique culturelle est tellement fragmentée qu'il y a un bout à la culture, un autre bout au ministère des Affaires extérieures, un troisième à l'éducation, etc. Donc il faudrait synergiser, comme on dit cela. Et donc je propose pour cela la création auprès du président de la République d'un conseil national pour le développement et la culture extérieure, qui serait l'équivalent du conseil pour la défense c'est la stratégie. Parce que on en parlait tout à l'heure, pour faire ce rapport, j'ai fait beaucoup de missions, où je voyage déjà par mon métier à l'extérieur, mais j'étais en Chine, en République de Tchéquie,
République tchèque.
Voilà. En Israël, aux États-Unis et partout dans le monde, on nous dit ben, vous n'avez peut-être pas de pétrole, mais vous avez des idées, donc pourquoi ne pas affirmer cela de manière plus cohérente, plus performante et plus adaptée à l'interculturalité, justement, à la diversité du monde. Et pour ce faire, je pense que ce serait un acte symbolique de faire ce conseil auprès du président pour montrer que c'est en effet une préoccupation essentielle de la France, et le symbolisme, ça compte beaucoup. Et en même temps, ce sera sur le plan pragmatique une impulsion pour l'interministérialité qui est, elle, la cheville ouvrière de réussite d'une telle politique.
Mais est-ce que ça ne risque pas, Julia Kristeva, d'être une usine à gaz supplémentaire, en tout cas une brique supplémentaire dans ce château de cartes, voilà une belle métaphore, que vous dénoncez justement?
Écoutez, tout risque de devenir une usine à gaz. De toute façon, on peut penser, et beaucoup de citoyens le pensent, que la politique est une usine à gaz et que du moment où tout se concentre à l'Élysée, ce n'est pas la peine de faire de la politique. Mais moi, je ne parle pas dans cet esprit-là. Vous savez, je me suis rendu compte en travaillant ce sujet que les Français sont divisés entre l'arrogance et la dépression. Et je choisis une politique, si je puis dire, constructive. J'aurais pu prendre la voie du défaitisme, tel un Cioran qui voyait déjà à la place de Notre-Dame une mosquée, ou la place de Céline avec son rire jaune qui disait « on est tellement envahis par des flux migratoires, et notamment les Chinois, mais n'ayez pas peur, Français, ils vont se noyer à Cognac ou en Champagne ». Donc ce n'est pas ce côté dérisoire comme ça et défaitiste que j'ai pris.
Oui, vous n'auriez pas choisi le meilleur Cioran et le meilleur Céline non plus en prenant cet axe-là.
Non, mais je l'ai choisi parce que ça dévoile quelque chose qui est dans l'esprit français de dévaloriser et de craindre. Et donc, étant donné, il se trouve malheureusement, heureusement pour moi, que je suis une enfant de l'Alliance française, que la culture française a des éléments extrêmement porteuses pour ceux qui sont à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, l'émancipation, les droits de l'homme, tout ça pour moi, ce ne sont pas des gadgets ni des usines à gaz.
Oui, vous avez vécu ce que vous décrivez.
Et j'essaye de promouvoir ça et de faire qu'on y croit et on a besoin de croire à certaines valeurs.
Catherine Clément, vous aviez une question pour Julia Kristeva.
Précédée d'une réflexion, si vous voulez bien, Thomas.
Mais je veux.
Il y a une page admirable dans ce rapport, c'est la page 11, en tout cas dans l'exemplaire que j'ai. C'est une page qui... Je vais résumer rapidement le paragraphe qui m'a le plus saisi, enfin qui est magnifique, et qui est un résumé saisissant des étapes de... Comment est-ce qu'on peut dire ? Oui, c'est des étapes de la culture européenne, mais c'est à travers des personnages français. Au XIIe siècle, Saint Bernard, qui fait de l'homme européen un sujet voyageur et amoureux, dans son interprétation du Cantique des Cantiques, la Julie, hein, et avec la formule « ego affectus est ». Comment on peut traduire ça, Julia ? Moi, je suis sensible, je suis affectée.
Hein. Je suis affectée, voilà. Oui.
Ensuite, les troubadours, qui font avec l'amour à mort un objet de pensée. C'est formidable d'avoir enchaîné les deux. Au XVIIe siècle, Descartes avec le « ego cogito », que pour le coup, on ne traduira pas. Au XVIIIe, les charmes du libertinage qui donnent la déclaration des droits de l'homme. Et après l'horreur de la Shoah, les Européens du XXe siècle, là évidemment c'est plus ouvert, affrontent une nouvelle ère. Bon d'accord, une autre ère. Alors je trouve que ça résume l'esprit du rapport et qu'il ne faut peut-être pas seulement s'engouffrer dans les petits machins de petits trucs d'organisation qui en effet, la raison Julia, c'est une organisation très parcellaire. Mais ça s'explique puisque c'est en 1922 qu'est né ce qui est maintenant Culture France et qui était une association loi 1901 toute bête hein, que j'ai eu l'honneur de diriger avant Poivre d'Arvor et donc c'est un résultat
Olivier.
De l'histoire. Comment ?
Olivier.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Je suis non, vous avez dit Poivre d'Arvor.
Pas
dit
ah, pas Olivier. Oui. Je me pose une question quand même sur l'orientation générale du rapport. Sur le Conseil extérieur, donc passons, c'est un organisme qui est central, il est à l'Élysée, auprès du président de la République. De façon générale, tout ce que vous dites sur la réorganisation de la politique culturelle extérieure va dans le sens de la centralisation, y compris une chose que j'ai bien connue, parce que quand je suis arrivée là-bas, il y a 30 ans à peu près, c'était la situation, c'est-à-dire que c'est le Culture France, l'organisme central, qui, comme la BBC et le Goethe-Institut, décide de tout. Alors moi, c'était ce que je faisais. C'est comme ça que quand je suis arrivée, on m'avait dit de faire comme ça. C'était la situation. Ça a des inconvénients quand même, parce qu'on impose par contrainte à des diplomates qui sont à l'autre bout du monde, on leur impose des trucs, on les voilà. Hein. La plupart du temps, les ambassadeurs viennent en disant « Moi, je veux la comédie française », et on leur dit « Pas question, vous aurez autre chose ». Ils sont obligés, ils le reçoivent, hein. Mais ça se passe mal à l'arrivée, parce que comme ça leur a été imposé, l'accueil est mauvais, ça grince de partout, ça grinche de partout, il y a un mauvais accueil, il y a des réticences. Je ne suis pas sûre que ça soit la solution. J'ai été très longtemps convaincue que c'était ça la solution, et je pense maintenant que c'est tout le contraire et qu'il faut laisser aux diplomates à l'extérieur le soin de juger eux-mêmes.
Alors, Julie Christ,
répondre, oui.
Bien sûr.
Écoutez, non, le problème est en effet très complexe et il y a plusieurs solutions probablement à envisager, mais je ne suis pas sûre que l'ancienne solution soit la bonne non plus. Pourquoi ? Parce que... D'abord, pour des raisons de crédit, il est important qu'il y ait un opérateur qui puisse avoir une réactivité économique et une mobilité, ce qui suppose aussi la nécessité d'avoir des subventions hors État. Et la formule de l'EPIC le permet.
Alors, mais en même temps, rappelez-nous ce que c'est qu'un EPIC.
L'EPIC, c'est un établissement public industriel et commercial. Donc, quand nous voulons désengorger l'État de différentes dettes, et c'est le cas, quelle que soit la couleur politique de l'État, il est important de prévoir ce genre de délestage. Mais le grand problème, et c'était la préoccupation centrale du rapport aussi, c'est que la politique en France est une question d'État. Et donc, la politique gouvernementale, la politique du Parlement, la politique de la voix populaire doit peser sur cette privatisation douce. Donc, comment faire l'articulation entre les deux ?
Est-ce qu'une structure pyramidale comme ça n'est pas un peu anachronique ?
Non, parce que la structure pyramidale de l'EPIC, je me suis bien renseignée, n'étant pas juriste, j'essayais de voir un peu à droite et à gauche. Il y a dans la gestion de l'EPIC, ce qui n'était pas le cas de Culture France jusqu'à présent, et d'ailleurs, Catherine, vous avez dit tout à l'heure que Culture France fait tout, il ne fait pas tout, il fait quelques activités au niveau des échanges artistiques. Mais l'idée est maintenant d'augmenter peut-être les capacités de cet opérateur, à condition, et je reviens là-dessus, qu'il y ait une attention que cet organisme-là porterait à la politique de l'État, autrement dit que l'ambassadeur puisse avoir son droit de regard, et non seulement droit de regard, mais d'influence. Et ceci est dans les statuts de NEPIC. C'est possible, il faut pouvoir l'appliquer. Mais c'est toujours la question des lois en France. C'est possible, on ne les applique pas. Comment faire pour que la voix politique puisse avoir son poids sur un organisme comme celui-ci ? C'est l'articulation entre les deux qui importe. Et c'est dans ce but-là que je proposais qu'on renforce la présence du politique dans la culture. Et le geste symbolique que je préconise, c'est-à-dire la création de ce conseil, va dans ce sens. S'il y en a d'autres, qu'on me le dise. Mais les gens qui montrent des hésitations par rapport à cette vision-là n'ont pas de proposition. Donc, voilà, la question est là. Ouvrir à du privé, mais en même temps maintenir la présence de l'État. Et c'est un équilibre qui se cherche dans le monde entier. À l'extérieur, on nous reproche beaucoup que la France domine dans la culture. Laisser la culture libre, on n'a pas besoin d'étatisme. C'est ringard, Fumaroli et d'autres le disent de manière pour moi inacceptable. Mais ce qui se passe à l'extérieur aussi, c'est que des pays qui avaient délesté la politique de la culture commencent à s'intéresser au modèle français, non pas pour le copier, mais pour mettre un peu d'État dans les gestions. Donc il y a des mouvements qui vont dans un sens et dans l'autre, et le modèle étatique de la culture et le modèle privé de la culture se rapprochent. Et l'EPIC pourrait aller dans ce sens d'équilibrage entre les deux.
Julia Kristeva, vous décrivez ce que vous souhaitez réformer dans ce rapport. Il y a aussi les biais, les vecteurs qui, d'après vous, fonctionnent, en tout cas doivent être poursuivis. Vous dites en particulier l'échange culturel est un des vecteurs de cette politique culturelle extérieure dont on parle ce matin. Vous, par exemple, sur tout ce qui concerne les manifestations culturelles, le cinéma, vous parlez d'Unifrance, vous parlez d'art contemporain aussi. Alors, par l'art contemporain, on peut soigner cette image culturelle extérieure de la France ?
Je pense que l'art contemporain, qui justement est du ressort de Culture France, est un domaine extrêmement important et qu'il ne faut pas considérer comme un fétiche ou comme un divertissement. C'est le lieu où s'exprime la vie profonde des individus. Et c'est quelque quelque chose que la France favorise de manière extrêmement importante. Si vous allez dans nos centres culturels, par exemple en Floride, vous allez voir que le cinéma, mettons polonais ou portugais, que les Américains ne peuvent pas voir sur les écrans américains, ils le voient dans les centres culturels français. Même chose pour des différentes troupes artistiques. Donc il y a cette espèce d'ouverture de la culture française vers cette diversité culturelle et vers l'encouragement des arts contemporains. C'est pour ça que je propose, dans le cadre de la Convention de l'UNESCO sur la diversité, que la France participe à l'élaboration d'un statut de l'artiste au niveau mondial. Parce que nous avons ici une protection des intermittents du spectacle, mais l'intermittent africain ou chinois, il n'a pas de statut. Et si nous voulons une véritable diversité culturelle et que les arts fleurissent au lieu des burkas, eh bien, il faudrait que ces artistes-là, ces gens, soient soutenus et soient encouragés.
Marc Ravetz, vous avez une question pour Julia Christéva.
Oui, je voulais revenir un peu en arrière. J'écoutais, en venant au studio, votre échange tout à l'heure sur l'information, enfin les moyens d'information comme vecteur, ce qui me semble en effet très important. Et vous compariez, et vous aviez raison de dire, voilà, il y a des journalistes aussi performants à RFI qu'à la BBC. Ceci ne se discute pas, de toute façon, ce n'est pas vraiment ainsi qu'on peut comparer. En revanche, il y a quelque chose qui ne se compare pas, c'est l'image des deux. Non pas de RFI et de la BBC, mais l'image de la BBC et de tout le reste, jusqu'à France 24 compris. Je reviens d'un pays là à l'instant, mais j'aurais pu vous en citer 10 autres. Donc dans des pays en difficulté, dans des pays où il y a eu des luttes terribles pour des changements de pouvoir, où la BBC est, si j'ose dire, le souffle, la respiration, l'idéal. Des gens nous disaient encore, il n'y a pas si longtemps, on allait en prison ici parce qu'on se faisait surprendre à écouter la BBC. Alors je ne souhaite à personne d'aller en prison pour écouter RFI, bien sûr. Ce que je veux dire par là, et c'est la question que je pose à propos de ce luxe qu'on a entre TV5, France 24, RFI, etc. Pourquoi on n'arrive pas à avoir une image de... Vous avez dit, la politique, c'est l'État en France. Mais l'information, c'est l'État. Là, c'est un désastre. C'est-à-dire que cette idée qu'on continue de penser qu'il y a la voix de la France et non pas la France qui informe ou l'information en français et qui est à la fois le prestige... Moi, c'est quelque chose qui me hante. Je suis, comme vous, un voyageur impénitent. Je ne retrouve jamais l'équivalent de la BBC dans la francophonie. Et au contraire, dans la francophonie, vous avez des auditeurs de ceci, de cela, y compris des auditeurs de France Culture, d'ailleurs, qu'on a trouvé à Kaboul. Mais si j'ose dire, et je ne le dis pas en mal, c'est un peu de la francophonie de salon.
Sauf en Afrique, quand même.
Nous n'avons pas cet élan populaire qui fait que les gens identifieraient dans une voix française, mais dans une station française qui émettrait dans une langue donnée, le même souffle que de liberté et de vérité que leur apporte la BBC. Est-ce qu'on peut changer ça ?
C'est peut-être la différence entre influence et rayonnement, d'ailleurs.
Oui, écoutez, si j'ai accepté cette tâche lourde, sinon impossible, d'essayer de restructurer la culture française et son exportation à l'extérieur, ce n'est pas parce que c'est un peu mon destin de quelqu'un de formé par cette culture, mais c'est parce que je pense que ça va mal. Mais j'ai pris, je le dis encore, l'option de ne pas accuser seulement, mais de faire des propositions. Donc, pour répondre à votre question, c'est vrai que ma défense de ce qui se passe concernant les personnels, les pertes de salaire, le manque de la suppression de langue, etc., RFI, s'accompagne aussi d'une critique de l'audiovisuel extérieur dans son ensemble, au niveau des programmations et au niveau de choix des langues. Autrement dit, il faut changer de fond en comble la conception de notre du message, de ce qu'on a à dire. Changer les types de programmes. Je suis comme vous déçue à chaque fois quand j'entends sur RFI ou sur TV5 qu'on nous met des tunnel sur comment on produit le camembert ou comment tel musée en province fonctionne en France pour faire du rayonnement, justement. Et on ne réagit pas sur l'actualité, par exemple. Donc, il y a toute une culture plus offensive de la programmation qui est à faire. Ça, c'est tout à fait indispensable. Et que, par ailleurs, il faut choisir des langues dans lesquelles on le fait. Par exemple, France 24 doit diffuser en chinois, en arabe, en anglais, pourquoi pas. Mais est-ce qu'il faut diffuser en anglais dans le monde maghrébin ou en Espagne ? Enfin, ce sont des choses très précises qu'il faut sur place et concrètement repensée.
Mais ça, ce n'est pas une réflexion qui est menée par
elle est en cours de se mener. Elle est en cours d'être menée. Elle se heurte à des dispersions diverses et à un manque de feuilles de route, apparemment.
Il y a une chose qui est on nous transmet d'ailleurs une invitation pour vous, un instant même, Julia Kristeva. Il se trouve que RFI diffuse en direct de 9h à 19h depuis l'hôtel de ville de Paris, devant l'hôtel de ville de Paris, avec de nombreux invités. Et on nous dit, c'est Madeleine Mukabamano qui travaille ici même à France Culture et à RFI, qui nous dit que vous seriez la bienvenue alors, à l'hôtel de ville de Paris et tout à l'heure, et toute la journée en direct. Justement, vous, l'auteur de cet avis, de ce rapport qui sera mis au vote tout à l'heure au Conseil économique et social sur le message culturel de la France, irez-vous ?
Écoutez, je vais essayer.
On vous donnera les informations un peu plus tard. Il y a une chose qui se trouve dans ce rapport aussi, c'est tout ce qui concerne les publications scientifiques. Vous dites qu'il faudrait que les publications scientifiques soient... elles existent essentiellement en anglais, et il faudrait qu'elles existent aussi en français. Il faudrait soutenir ça. Est-ce que ça se décrète, ça, les publications scientifiques? Parce qu'il y a quand même une question de valeur scientifique des publications et des revues.
Alors, ça touche, ce que vous dites là, touche à toutes les questions du rapport aux échanges universitaires et aux échanges scientifiques. D'abord, quelques mots sur l'accueil des étudiants étrangers et l'accompagnement des élites étrangères. Je me suis rendu compte, notamment en Tchéquie, mais aussi et surtout en Chine, que nous avons des collègues qui ont été formés par nos universités et qui, après, se retrouvent complètement abandonnés, sans relation avec nos institutions et sans suivi. Alors que le British Council a fait un recrutement dynamique des personnes qui viennent apprendre des hautes technologies ou des hautes sciences chez eux et les suivent tout au long de leur carrière à tel point, c'est peut-être pas un exemple à suivre, mais c'est significatif, que la responsable des échanges universitaires au British Council a été recrutée chez les services de l'Intelligence Service.
D'accord.
Donc vous voyez, c'est quand même, mais ça veut dire simplement qu'au lieu de faire un accueil passif, on fait un recrutement dynamique et un suivi extrêmement fort. Donc à partir de là, les publications. Les publications, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. Et il y a deux choses apparemment à faire. D'une part, l'apprentissage de l'anglais et la possibilité de se servir de l'anglais que je ne criminalise pas du tout, contrairement à d'autres adeptes de la francophonie. Je pense que c'est une langue code qui peut être tout à fait utilisée dans certaines communications, en particulier dans les sciences exactes, mais que le français, la langue natale, reste ce que quelques-uns appellent la langue adoptive, c'est-à-dire celle dans laquelle ma pensée est adoptée et c'est là que je peux vraiment penser. Donc, pour les sciences humaines, il faut la développer. Et un certain nombre de publications doivent se faire en français.
Mais est-ce que ça se décrète véritablement ?
Alors, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas au rapport de donner les éléments. Ce que nous proposons, c'est que les presses universitaires et les éditions du CNRS réfléchissent sur la possibilité de créer des publications bilingues, par exemple, français et anglais, pour que nos scientifiques puissent avoir une manière d'échanger avec les francophones du monde que nous avons formés.
Catherine Clément, vous avez une question.
Pour revenir sur l'accompagnement des élites, non, c'est une info. Pour revenir sur l'accompagnement des élites, si on veut vraiment les garder, que fait l'Université de Columbia qui est en train de prendre tous les cerveaux de l'Afrique de l'Ouest? Eh bien, elle propose à ses professeurs un appartement à vie transmissible aux héritiers. Voilà. Alors, moi, je dis ça à beaucoup de gens et on dit, bon, oui, ben d'accord, on n'est pas de taille. Je ne vois pas pourquoi on n'essaierait pas d'inventer quelque chose qui soit aussi séducteur, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est vrai qu'on n'est pas bon. Julia Parfait-Crisa a parfaitement raison. On n'a pas d'imagination dans ce genre. Mais ça donne un modèle quand même. Enfin, peut-être pas un modèle à suivre, mais ça donne une petite idée du retard que nous avons, nous.
Vous voudriez, Julia Kristeva, présider ce Conseil de l'Action extérieure pour le développement et la culture auprès du président de la République, vous appelez la création ?
Non, je ne me sens pas une vocation administrative. Je pense que ça doit être quelqu'un qui connaît mieux les rouages de la politique, mais aussi probablement avec des intérêts dans le domaine de la culture, des arts, de manière à ce que ce soit une personnalité attachante.
Et une dernière question avant de terminer cette conversation avec vous. Quand on lit votre rapport, on repense au fameux dossier de Time Magazine qui était paru fin 2007 sur la mort annoncé par le journaliste Donald Morrison, la mort de la culture française. Est-ce que ce rapport est une réponse à ce dossier de Time Magazine et à Donald Morrison ?
Bah écoutez, on peut le penser, si vous voulez. Moi, je,
c'était le point de départ, autant, c'était le point de départ de ce
rapport ? Pas du tout, non. Non, le point de départ, c'était la Convention de l'UNESCO sur la diversité. Je suis de ceux qui lisent beaucoup New York Times, mais je ne pense pas que ce soit toujours parole d'évangile. On peut dire beaucoup de choses
c'était Time Magazine. Time Magazine.
C'est Time Magazine, oui, les deux. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la situation objective. On ne peut pas à la fois déplorer que les Français veulent être des maîtres à penser et en même temps les accuser de ne pas l'être. Et aujourd'hui, si on est dans cette interculturalité, on est plutôt moins dans la fabrication d'œuvres fétiches que d'interface entre les cultures. C'est moins visible, mais c'est peut-être plus dans l'air du temps.
Merci d'avoir été avec nous ce matin, Julia Kristeva. Je rappelle donc ce rapport, cet avis qui est soumis au vote tout à l'heure au Conseil économique et social et environnemental pour donner le nom complet, le message culturel de la France et la vocation interculturelle de la francophonie. Si nos auditeurs veulent le lire, il est disponible sur Internet.
Il le sera bientôt, oui, et puis il sera publié au Journal officiel.